Alain, ce matin, focus sur l'arbre de Toulet, qui est l'un des plus beaux arbres du monde.
Et oui, vous avez parfaitement bien prononcé le nom de cet arbre, car il ne doit pas être confondu avec celui de la ville de Tulle, qui s'écrit avec deux L et qui est la préfecture du département de la Corrèze.
Enfin, faites pas le savant, parce que ça fait une demi-heure que vous essayez
mais j'ai quand même pris mes renseignements.
Comment ça se prononce. Voilà.
Et là, nous parlons bien de l'arbre de Toulet, qui vient de la commune du Mexique, Santa Maria del Toulet. L'arbre de Toulet est donc un cyprès, un Taxodium mucronatum pour les puristes, mais il est appelé dans son pays l'arbre de vie. Ses dimensions sont impressionnantes. Il mesure 41 mètres de hauteur et la circonférence de son tronc avoisine les 36 mètres.
Et ça en fait donc aussi l'arbre le plus gros du monde.
Oui, à titre de comparaison, le plus grand des séquoias possède un tronc d'une circonférence de 31 mètres, soit 5 mètres de moins que l'arbre de Toulet qui, pour être encore plus précis, pèse 636 tonnes pour un volume de 816 mètres cube. Il est si imposant que longtemps les botanistes ont pensé qu'il était constitué de plusieurs arbres, mais des tests scientifiques récents attestent qu'il s'agit bien d'un seul et même cyprès. Il a bien mérité son classement par l'UNESCO en 2001 comme héritage de l'humanité.
Alors cet arbre de Toulet, il a poussé spontanément ou où a-t-il été planté ?
Alors il se dit, légende ou réalité, allait savoir que c'est un prêtre qui aurait voulu un arbre sur un site sacré, et c'était il y a 1200 ans. Mais il y a un doute sérieux sur son âge. Les botanistes les plus éminents pensent qu'il serait plutôt âgé de 2000 ans. L'arbre de Toulet est la fierté, on s'en doute, de la commune et il est protégé par une barrière qui tient à distance les admirateurs toujours nombreux, ce qui permet à l'arbre de ne pas souffrir du piétinement qui est l'une des causes principales du dépérissement des vieux végétaux.
Et il est de tradition d'observer son tronc avec soin.
Eh oui, un tronc qui produit une écorce magnifique, très épaisse et très noueuse. Et un peu comme lorsque l'on regarde les nuages, on peut y deviner, avec un peu d'imagination certes, des formes d'animaux. Une légende prétend que si vous êtes capable, Eric, sans aide extérieure, de distinguer une tête de lion, un crocodile ou encore un éléphant, alors vous posséderez alors et pour la vie les principales qualités de l'animal trouvé.
Je le prends pour moi, pourquoi pas. Alain Baraton, vos conseils aux auditeurs de France Inter. Georges vous demande, combien de temps vit une plante bisannuelle ?
Alors, une plante bisannuelle, car il y a bien un S entre le I et le A, à ne pas confondre avec ce qui est biannuel. Alors, on va faire très simple. Il existe trois catégories principales de petites fleurs. Les plantes dites annuelles. Elles naissent au début du printemps et meurent avec l'arrivée des gelées. La plante dite vivace qui, en fait, vit sur plusieurs années. L'immense majorité des petites fleurs qui vont, par exemple, garnir nos pelouses sont des plantes vivaces. Et les plantes bisannuelles, dont le cycle végétatif, en fait, est à cheval sur deux années. La pensée, le myosotis, la giroflée, sont des plantes biannuelles que l'on sème, par exemple, en 2018 et qui, donc, fleuriront en 2019.
Bisannuel, donc.
Bisannuel.
Yolande dit qu'elle a planté des graminées décoratives et elle aimerait savoir comment les entretenir. Faut-il les tondre chaque année, par exemple ?
Il n'y a pas plus simple que les graminées. Il suffit simplement à l'automne ou en hiver de couper les parties sèches, donc ce qui signifie l'immense majorité. L'ensemble va redémarrer. Attention à ne pas couper les graminées trop tard à la reprise, j'allais dire printanière, parce qu'on risque de couper ces jeunes tiges vertes qui vont justement constituer l'élément décoratif principal au printemps. Mais effectivement, eh bien, les graminées, je vais faire une comparaison un petit peu caricaturale, c'est un peu comme les cheveux. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien, si ce n'est de temps en temps de remettre tout ça en ordre.
Surtout
et
les
que ce soit à peu près présentable, je n'osais pas le dire, mon cher Eric.
Ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Isabelle dit qu'elle a un cerisier nain dans un pot et elle souhaite le replanter en pleine terre. Quelle est la bonne période pour le faire ?
Toutes les plantes sont à repiquer pendant le repos végétatif. Je rappelle que le repos végétatif, c'est la période entre la chute des feuilles et le redémarrage au printemps. Les arbres fruitiers nains, comme les cerisiers, ne demandent pas plus de précautions que les arbres classiques fruitiers. Simplement, les arbres fruitiers nains, de par leur dimension, vu qu'ils sont généralement plus de moitié plus petit que l'arbre d'ordinaire, eh bien, va être peut-être simplement un peu plus précieux au niveau des racines, de pas oublier que la terre est obligatoire autour des racines et que même si on plante en hiver un cerisier nain, on se doit de l'arroser et copieusement.
Jeanne vous demande, Alain, peut-on mettre dans un même pot les cactus de Noël et les cactus de Pâques ?
Oui, ce sont deux plantes différentes. L'une fleurit à Noël, le cactus de Noël, c'est logique, ce sont des plantes succulentes. Le cactus de Noël, on le connaît, il a des plantes qui ressemblent un petit peu à des raquettes et des plantes qui pendent, qui sont des fleurs qui pendent, qui sont le plus souvent rouges, roses, on en voit aussi des blanches. Il y a un petit côté cactus en fleurs qui n'est pas désagréable. Le cactus de Pâques, c'est à peu près la même plante, mais qui, elle, fleurit le plus souvent rouge, je crois, et qui fleurit au printemps. Ces deux plantes originaires du Brésil ont les mêmes exigences de culture, les mêmes exigences d'ensoleillement, les mêmes exigences d'arrosage. Donc, il n'y a pas de problème, ben on peut les planter ensemble.
Jeanne vous demande quelle est la fréquence d'arrosage pour ce type de plante.
Eh bien, de mai à septembre, on va simplement réduire l'arrosage. On va se contenter de faire en sorte que la terre soit toujours humide et sans plus. Ce sont quand même des plantes qui sont originaires de régions où l'été est parfois chaud, sec et long. Donc on va réduire l'arrosage de manière à ce que la plante conserve son petit côté succulent. Je rappelle que succulent, ce sont des plantes qui ont en réserve dans les feuilles de l'alimentation, de l'eau en stock.
Je vois que vous avez un joli livre, un petit livre d'ailleurs, mais oui, joli quand même.
Mais je l'aime bien. Il s'appelle Jardin paysage miniature. Le sujet est intéressant. Il est rare d'aborder ce sujet. Il est signé de Karine Marquis. Alors moi qui viens de Versailles, comment ne pas citer un livre publié par une femme qui se nomme Marquise. C'est publié aux éditions Ulmer, 12,90 €. Mais oui, non, il est bien fait. Et c'est vrai que c'est devenu une grande mode. Vous avez un petit appartement, vous aimez les plantes, et bien vous pouvez, grâce à cet ouvrage, avoir toutes tous les conseils pour créer ce petit jardin paysage miniature. Et il y en a de photographiés qui sont particulièrement beau. Donc je rappelle, Karine Marquis, et c'est chez Ulmer.
Merci monsieur le Marquis. Alain Baraton.